à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. La campagne pour la présidentielle touche à sa fin au Togo, les élections ont lieu samedi. Au Mali, le maire de Sanga, dans la région de Mopti, lance un appel à l'aide. Des hommes lourdement armés sont regroupés près de son village. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont enfin mis d'accord pour former un gouvernement d'union nationale. La chancelière allemande Angela Merkel dénonce le poison du racisme après une double fusillade qui a tué 9 personnes, dont plusieurs d'origine kurde. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Togo, 3,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes samedi pour l'élection présidentielle à 2 tours, avec 7 candidats en lice, dont le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, et le président sortant, Faure Gnassingbé, qui se présente à un 4e mandat. Nathalie Barge.
Faure Gnassingbé s'est dit serein et confiant de remporter le scrutin dès le premier tour. Quand j'ai succédé à mon père, les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'est sûr que c'est un peu comme le péché originel, parce que c'est l'armée qui a pris cette décision, a-t-il déclaré. L'opposition dénonce des arrestations arbitraires et l'absence d'alternance démocratique. Des critiques exagérées, selon M. Gnassingbé, estimant ne pas avoir l'âme d'un dictateur. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté entre 2017 et 2018 pour demander sa démission, tandis que le Parlement a approuvé une modification de la Constitution, lui permettant de se représenter en 2020 et en 2025. Les principaux candidats de l'opposition sont l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, considéré comme outsider crédible, et l'opposant historique Jean-Pierre Fabre. Le défi du chef de file de l'Alliance nationale pour le changement sera de remporter plus de suffrages qu'en 2010 et 2015, soit plus de 35% des voix, et d'être le premier candidat de l'opposition.
3 donc des 7 candidats au Togo en lice sont visibles sur le terrain. Notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Oumbo, a recueilli les propos de l'opposant Jean-Pierre Fabre en ce dernier jour de campagne.
Nous avons pendant 2 semaines sillonné le pays pour mobiliser la population. Mais vous savez, un parti politique normal n'attend pas les élections pour se mobiliser. Il travaille en permanence. Donc, nous sommes toujours sur la brèche et donc nous considérons que nous avons mobilisé et on va prendre les mesures nécessaires à l'apaisement de la situation politique en vue d'une réconciliation nationale. Il faut se préoccuper de ceux qui sont des détenus politiques, c'est la première mesure. Après, il y aura la première mesure sociale concernant les femmes, la femme enceinte. Vous avez constaté que notre adversaire, mon adversaire, il commence à parler de la femme enceinte et les soins pour la femme enceinte. Mais ça fait 2 semaines que nous en parlons. Lui, il en parle depuis 3 ou 4 jours, alors qu'il a eu à gérer le pays depuis 15 ans. Il n'en a jamais parlé. Il a suffi qu'on en parle pour qu'il se jette dessus et en parle. Ça ressemble à de la tricherie.
C'était l'opposant Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidence du Togo. Ses propos étaient recueillis par notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Oumbo. Au Mali, hier, des hommes armés non identifiés évoluant à bord de véhicules pick-up et plusieurs motos se sont regroupés à Bombou dans la région de Mopti, faisant craindre le pire pour les habitants face à la multiplication des attaques djihadistes dans la région de Mopti. Aline Dogo Dolo est le maire de Sanga dans le cercle de Bandiagara.
La commune de Sanga est composée de 75 villages. Depuis 4 jours ou 5 jours, on est victime des attaques. J'ai un des hameaux de culture de Kreli du nom de Gento qui a été attaqué il y a 4 jours, qui s'est soldé avec 7 morts. Donc après l'attaque, les assaillants sont allés dans la forêt de Bomou. Bomou, bon, communiquement, les devoirs appellent Amen. C'est un village tel qui était proche de la commune de Sanga, mais qui relevait de la commune de Mandougou. Le village a été rasé. La commune a subi au moins plus de 26 attaques, qui s'est soldé à jusqu'à 171 morts. Il y a plus d'une vingtaine de villages et d'hameaux de culture qui sont carrément détruits. On peut dénombrer jusqu'à 6000 déplacés internes dans la commune. De toute façon, le nombre de djihadistes, on ne connaît pas. D'autres parlent d'une centaine de motos, d'autres parlent d'une quarantaine de motos. Il vaut mieux prévenir que guérir. Depuis hier, on a alerté les autorités. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. Les villages environnants ont peur. En tout cas, notre constat est amer. Quand ils font des affirmations comme ça, après 3 ou 4 jours, ils passent à l'offensive. Donc, on veut que l'État intervienne avant que le mal soit fait.
C'était Ali Ndogo Dolo, le maire de Sanga, dans le cercle de Bandiagara. La Tunisie pourrait enfin se doter d'un nouveau gouvernement plus de 4 mois après les élections. Le premier ministre Elias Fakhfakh a dévoilé aujourd'hui une version remaniée du gouvernement. La première mouture du projet avait été rejetée par Ennahda, première force du Parlement. Ce parti obtient au final 7 portefeuilles. Les pourparlers militaires interlibyens visant à établir un cessez-le-feu durable ont repris. Ces discussions indirectes entre belligérants libyens se tiennent à Genève sous les auspices de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassam Salamé, qui fait la navette entre les deux délégations. Le GNA, le gouvernement d'union, s'était retiré des discussions hier après le bombardement d'un port de Tripoli. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont mis d'accord pour former un gouvernement d'union nationale. Un pas vers la fin de 6 années de guerre civile. Nous faisons le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont convenu de former le gouvernement ce samedi 22 février. Nous discutons encore sur d'autres questions et j'ai confiance que nous parviendrons à une solution, a déclaré M. Machar après une rencontre à Djouba avec M. Kiir. Le président a annoncé qu'il va dissoudre le gouvernement et nommer demain M. Machar à l'un des postes de vice-président comme le prévoit l'accord conclu en septembre 2018 à Addis Abeba. Il dit espérer que ces changements apportent la paix. Le chef de l'État a laissé entendre que ses hommes vont assurer la sécurité de la capitale et celle de M. Machar. Il a appelé les 190 000 personnes déplacées vivant toujours dans des camps sous protection de l'ONU à retourner chez elles. En juillet 2016, un gouvernement d'union avait volé en éclat après des combats à Djouba entre les troupes de ses deux frères ennemis. La méfiance entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar est à l'origine de la guerre civile en 2013. Depuis, plusieurs accords et cessez-le-feu ont été conclus, mais n'ont jamais été respectés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Allemagne, 9 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une double fusillade visant des bars à Shisha, des bars situés à Hanau, près de Francfort. L'auteur est un extrémiste de droite présumé. Compte rendu, Jacques Aristide.
Le tireur présumé a été identifié par les médias allemands comme Tobias R., un Allemand de 43 ans. Il a été retrouvé mort dans son appartement ce matin, aux côtés du corps de sa mère. Le parquet fédéral, notamment chargé de l'antiterrorisme, mène l'enquête. Il dit disposer d'éléments à l'appui d'une motivation xénophobe. Parmi les tués figurent plusieurs victimes d'origine kurde. Cette communauté accuse les dirigeants allemands de ne pas résolument combattre le terrorisme d'extrême droite, mais la chancelière allemande Angela Merkel n'a pas tardé à dénoncer l'acte.
Le racisme est un poison. La haine est un poison. Et ce poison existe dans la société. Et il est responsable de trop de crimes.
À Bruxelles, de nombreux dirigeants ont exprimé leur solidarité à Angela Merkel avant l'ouverture du sommet européen. Plusieurs rassemblements de soutien aux victimes sont prévus à Hanoï et Berlin. Le danger d'un terrorisme d'extrême droite inquiétait de plus en plus les autorités allemandes depuis le meurtre d'un élu allemand pro-migrant, membre du parti d'Angela Merkel, en juin dernier.
Au Royaume-Uni, un homme a été arrêté après une attaque à l'arme blanche à la mosquée centrale de Londres. Cette attaque a fait un blessé. La police n'a pas précisé s'il s'agissait d'un acte terroriste, soulignant que l'enquête se poursuit. Et la Chine s'est félicitée aujourd'hui d'une baisse spectaculaire du nombre des nouvelles contaminations par le coronavirus. Mais l'inquiétude monte au Japon avec la mort de deux personnes qui étaient dans une croisière et en Corée du Sud avec un premier mort et un cas de transmission. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
En République démocratique du Congo, les entités territoriales du Haut-Katanga ont été dotées d'un guide de gestion de la redevance minière. C'est ce que rapportent des médias congolais. La proposition avait été faite par des organisations de la société civile qui œuvrent dans les domaines de la décentralisation et les finances publiques lors d'un atelier de travail de 2 jours qui a eu lieu récemment à Lubumbashi. Pour les participants, la redevance minière est importante car elle permet le développement socio-économique des communautés. D'après eux, il faut avoir un plan de développement local, il faut réglementer les finances en respectant les lois nationales, avoir un comptable public. La redevance, disent-ils encore, doit être affectée totalement à l'investissement. Le coronavirus continue de menacer l'économie mondiale, y compris le continent africain. Le transport de fret maritime, très dépendant de l'activité commerciale chinoise, est frappé depuis le début de l'année par l'épidémie qui plombe l'activité des ports et la demande de matières premières en Chine. Témoin de cette mauvaise passe, l'indice qui reflète chaque jour les tarifs pratiqués sur les 20 routes de transport en vrac de matières sèches jugées représentatives du marché, le Baltic Dry Index, le BDI, a touché la semaine dernière un plus bas depuis le début de l'année 2016. Celui de la catégorie Capesize, composé des navires les plus gros, transportant principalement du charbon et du minerai de fer, n'a quant à lui jamais été aussi bas depuis sa création. Le BDI demeure un indicateur important pour le marché et certains le considèrent comme un baromètre fiable de la croissance mondiale à venir.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
L'Étoile du Sahel s'offre les services de Zouaghi.
Oui, Caïs Zouaghi sera l'entraîneur principal pour une durée d'un an et demi. Il remplace l'Espagnol Juan Carlos Garrido qui a été relevé de ses fonctions pour insuffisance de résultats. Zouaghi revient sur le banc de l'Étoile après avoir été entraîneur adjoint entre 2017 et 2018. Comme joueur, il a enfilé le maillot du club tunisien pendant 7 ans. En tant que défenseur de 1997 à 2006, l'Étoile affronte la formation marocaine du Wydad Athletic Club dans les quarts de finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine à Casablanca, avant d'accueillir le retour 7 jours plus tard.
Inculpé en Suisse, le président du PSG satisfait de l'abandon d'une partie des charges.
Je suis satisfait que toutes les accusations de corruption en lien avec les Coupes du Monde 2026 et 2030 aient été abandonnées, a réagi Nasser Al-Khelaifi, patron du PSG et du groupe de télévision beIN Sport. Il a été inculpé en Suisse dans une affaire de corruption liée à l'attribution des droits télé du Mondial de football. En mars 2017, une enquête a été ouverte en Suisse contre lui pour soupçon de corruption privée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il est reproché à celui qui est alors numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, d'avoir accepté des avantages contre lesquels il aurait cédé les droits télé de la Coupe du Monde à des prix en dessous du marché.
Messi assure que Neymar a très envie de revenir au Barça.
Il a très envie de revenir. Il a toujours montré qu'il était désolé d'être parti, a déclaré le septuple Ballon d'Or qui a évolué aux côtés de Ney entre 2013 et 2017. Évoquant son avenir au Barça, Lionel Messi, sous contrat jusqu'en 2021, a assuré qu'il a l'intention de continuer avec le club catalan pour gagner une autre Ligue des Champions et d'autres ligas. La Pulga est aussi revenue sur ses relations avec le directeur sportif Eric Abidal, contre lequel il s'est insurgé début février, provoquant une crise au club. L'Argentin a peu apprécié les déclarations du Français, qui assurait que beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits de l'entraîneur Ernesto Valverde, remplacé depuis par Kik Setién.
L'Afrique du Sud jouera 7 test-matchs de rugby cette année.
Oui, sacrée championne du monde de rugby en novembre dernier, l'Afrique du Sud va disputer ses matchs entre début juillet et fin novembre. Pour leur premier test match, les Springboks feront face à l'Écosse au Cap le 4 juillet. Ce sera la dernière rencontre disputée dans le stade du Cap qui sera ensuite démoli. Après 132 années d'activité, ils affronteront également la France, l'Italie et l'Irlande, entre autres. Les Sud-Africains finiront leur tournée européenne au Pays de Galles le 28 novembre. Une belle affiche pour finir, réédition de la demi-finale du Mondial 2019, perdue de justesse par le Pays de Galles 19-16 face à l'Afrique du Sud.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Et c'est donc le dernier jour de campagne électorale au Togo. Les candidats ont cette ultime journée pour convaincre les indécis et les rallier à leur cause. Ils sont 7 dans les starting blocks, mais dans son reportage, notre correspondante Alomé revient sur les 3 grands candidats que sont Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Fabre et Agbeyome Kodjo. Écoutons Kay Lawson.
Faure Gnassingbé est candidat à sa propre succession. Le président sortant gouverne le Togo depuis 2005 à la suite du décès de son père Gnassingbé Eyadema. En 15 ans, Faure Gnassingbé se vante d'avoir relancé l'économie du pays, un argument qui séduit Ankou Bavo, qui compte lui renouveler sa confiance.
Moi, en tant que jeune entrepreneur, j'irai voter le président Faure Gnassingbé pour reconduire son mandat parce que déjà, il nous a octroyé 25% des marchés de l'État et déjà, il a conduit le pays à être troisième sur le plan mondial et premier sur le plan africain.
Que faire d'une croissance économique sans incidence sociale, ironisent les adversaires de Faure Gnassingbé qui estiment que les Togolais triment dans la pauvreté. Jean-Pierre Fabre, son plus grand challenger et candidat pour la troisième fois, même s'il est en perte de vitesse dans les sondages, se dit confiant. Il bat essentiellement campagne pour faire du Togo un état de droit.
Première préoccupation, état de droit. Toute affaire cessante, état de droit. Le reste suit. Sans état de droit, il n'y a pas d'emploi. Un investisseur, on ne le trompe pas parce qu'il a les sous. Si tu veux le tromper, il va investir ailleurs. Et c'est pour ça que nous luttons. Un état de droit. L'investisseur, il viendra investir. C'est qu'il y a des problèmes. Les tribunaux sont là pour départager.
Agbeyome Kodjo, ancien premier ministre de Gnassingbé Eyadema, a rejoint l'opposition depuis 2002. En 2010, il tenta l'aventure présidentielle mais fut désabusé par son score de 0,9% des suffrages exprimés. 10 ans plus tard, celui qui se réclame candidat unique de l'opposition a un grand atout. Il a le soutien de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Kodjo.
Les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes.
Agbeyome Kodjo se voit déjà président du Togo. De ce fait, il dit vouloir faire de l'unité nationale une priorité pour son quinquennat.
Le premier acte que je poserai, j'irai moi-même en prison libérer Batia Gnassingbé. Le deuxième acte, je me déplacerai pour aller rencontrer Tipi Akadam, rencontrer François Bocco. Je les ramènerai. C'est aussi des actes qui participent de toute façon à la réconciliation nationale. Et je crois quand même que le sort du Togo, en tout cas soit autrement, et sur le plan international, nous retrouvons notre fierté, notre dignité.
Faure Gnassingbé compte gagner au premier tour. Un souhait utopique répond l'opposition dans son ensemble, qui assure que cette élection présidentielle est plutôt un référendum contre le système en place depuis plus de 50 ans. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. Au Mali, le déploiement des bataillons de l'armée reconstituée continue. Après les 400 hommes de Kidal, 300 sont arrivés à Tombouctou cette semaine. Ces unités militaires sont prises en charge dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Elles ont les mêmes missions de sécurité que les forces armées maliennes. Elles doivent toutes sécuriser les personnes et leurs biens et faciliter le retour des services sociaux de base dans toutes les régions du nord du Mali. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus.
Camp 1 de Kidal, au camp général Abdoulaye Soumaré, le jeudi 13 février 2020, c'est l'arrivée du bataillon de l'armée reconstituée à Kidal. Commandant Mamadou Keïta, chef de l'armée reconstituée à Kidal.
Nous retrouvons le camp général Soumaré, c'est vraiment, nous sommes combien. C'est le souvenir, nous manquons depuis longtemps. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes bienvenus chez nous, nous sommes très contents. Nous venons pour préparer le retour de l'administration malienne. Donc, c'est là que nous avons assuré la sécurité. Qui parle de profession, de personnes et de biens, ne peut pas parler de campement, puisqu'on ne peut pas faire ce travail et pas campement.
Ces ex-rebelles et combattants ne pouvaient pas rester en marge parce qu'ils peuvent constituer des menaces pour le pays.
Cette armée reconstituée intègre des gens qui ont pris les armes contre leurs frères, qui ont tué des Maliens et ils sont récompensés aujourd'hui au sein de l'armée avec des grades. Une armée reconstituée pour le Nord seulement. Mais pourquoi le faire pour seulement le Nord? Surtout, on a affaire à des séparatistes. Et c'est une manière de préparer une armée pour pouvoir contrôler l'espace Azawad, comme ils le disent. Il y a des inquiétudes. C'est pourquoi je suis contre.
Alousseni Touré, éditorialiste.
Moi, c'est l'appellation qui me dérange. Sinon, moi, l'esprit, je suis pour ça. Quand on dit armée reconstituée, alors que nous avons une armée, c'est suite à un accord qui est là. Après l'accord, c'est qu'ils étaient un moment contre la République. Ils ont accepté de rentrer dans la République. Et à part la je ne suis pas contre l'esprit que de fait qu'ils sont revenus et de fait qu'ils acceptent de rentrer dans la République avec les couleurs nationales. Donc moi, je trouve que c'est une très belle chose.
Déjà, l'armée reconstituée de Kidal a le soutien de la population, des notables et des élus. C'est ainsi que le député de Abeibara, dans la région de Kidal, a offert un taureau au bataillon de Kidal, Amada Agbibi.
Kidal, c'est une région malienne et restera malienne. Aujourd'hui, votre présence marque un grand pas vers l'histoire de notre pays. Toutes les populations de Kidal sont contents quand ils ont entendu votre arrivée. Ils sont là, ils sont avec vous et tous les élus, les notables, tout le monde. Au nom des députés de quatre cercles de Kidal, je suis venu présenter leur service. Félicitations qu'ils seront là après. L'armée malienne doit être partout sur le territoire malien. L'accord d'Alger, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. L'armée fait la garantie de cette réconciliation.
Après le déploiement des bataillons de Kidal et Tombouctou, les régions de Gao, Menaka et Taoudeni attendent leur armée reconstituée afin de faciliter le retour des services sociaux de base et les symboles de l'État dans la région nord du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24. L'EVA, la banane, l'ananas ou encore le palmier à huile sont quelques monocultures qui occupent des milliers d'hectares dans les zones reculées du Cameroun. Un investissement de plus en plus controversé et objet de nombreuses dénonciations, notamment des riverains et de la société civile. Ces derniers réclament de l'État une meilleure réglementation de la monoculture du palmier à huile. Reportage dans les villages du sud et du littoral du Cameroun avec notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Nous sommes à Pongo Aviation, un petit village au sud du Cameroun. La communauté accuse la société camerounaise des palmiers de polluer l'unique rivière du village par les eaux déversées par son usine d'huilerie. Hervé César Mimpa, notable au village Pongo Aviation.
On s'en servait pour la lessive et même pour bien d'autres besoins.
Cette dame même que vous voyez là, en train de faire la lessive. Et elle l'utilise un peu à ses risques et périls parce que l'eau est complètement polluée.
L'accusation est rejetée par l'agro-industriel qui dit avoir investi plus de 4 milliards de francs CFA depuis 2011 pour le traitement des eaux. Joseph Mengue, secrétaire général de la société camerounaise des palmiers.
C'est un système qui fait passer des eaux de l'usine et des effluents dans 5 bassins successifs. Au bout de la chaîne, on recueille une eau suffisamment inoffensive.
Au Cameroun, l'opinion est divisée sur la monoculture du palmier à huile. Elle occupe plus de 34 000 hectares de terre cédés par l'État en 2000 au groupe Sorfin. Docteur Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
Qu'on arrête le rythme de cession des terres,
qu'on attende d'avoir une décision, une politique définitive de développement du palmier à huile.
Pierre Mbaka est planteur au village Mbambou dans le littoral, où la société camerounaise des palmeraies a installé une usine d'huilerie.
Depuis la privatisation, moi je pense que les installations de la Socapalme sont la bienvenue chez nous, dans notre village. C'est grâce à ça que je vis.
L'activiste Emmanuel Elon soutient que la pauvreté sévit sur l'ensemble des sites de production industrielle de l'huile de palme, comme ici, dans son village Mbondjo 2, où une vaste plantation de palmiers à huile occupe les terres. L'agro-industriel rejette cette accusation. Anne-Audrey Kongolo, administratrice de la société camerounaise des palmeraies.
En ce moment, il y a 15 mairies qui sont bénéficiaires d'Action Socapalme, donc l'activité de la Socapalme est bénéfique pour tout le monde.
Pour calmer la colère des riverains, l'État a créé une plateforme de dialogue entre ces derniers et la société camerounaise des palmeraies en vue d'examiner leurs doléances et répondre à leurs besoins. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la tournée de Mike Pompeo dans trois pays d'Afrique subsaharienne, sa première depuis sa prise de fonction il y a 2 ans. Le secrétaire d'État américain s'est rendu au Sénégal, en Angola et en Éthiopie. Au menu de sa visite, la coopération, l'investissement américain sur le continent, la lutte contre la corruption et la sécurité. Ceci alors que Washington étudie la question de sa présence militaire sur le continent. Nous allons discuter des relations États-Unis-Afrique dans les domaines économiques, diplomatiques et militaires avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Danse traditionnelle, poésie musicale, course de chameaux, le menu du festival culturel à Ife-Rouanne, au nord d'Agadez, au Niger, continue d'impressionner les nombreux spectateurs venus y assister. Malgré les inquiétudes concernant l'extrémisme islamique dans toute la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, ils sont des milliers à venir assister au spectacle chaque année. Arzuma Kombaoré.
Le festival de l'Aïr, considéré comme l'un des rassemblements les plus importants pour célébrer la culture du peuple Touareg, a lieu depuis 2001. Comme lors de chaque édition, la culture Touareg, ses femmes, ses hommes, sa musique, sa danse, sans oublier la beauté de la région, sont célébrés en grande pompe. Brigui Raffini, premier ministre nigérien.
Chiriet, c'est le point de jonction des dunes du Ténéré et le massif de l'Aïr. Vous voyez ce que ça donne comme paysage, un paysage unique en son genre, un paysage qui fait la fierté de notre pays.
La région de l'Aïr, avec ses oasis, ses montagnes et ses dunes de sable, est une destination pour de nombreux touristes occidentaux, mais aussi pour les pays voisins. Diam Diop, ministre sénégalais de l'artisanat.
C'est des moments forts dans la vie de la nation nigérienne par rapport au contexte sécuritaire que nous vivons. Il n'y a pas de doute que le Niger, quand même, va chercher dans ses valeurs ancestrales, comme je l'ai dit, pour maintenir une dynamique de développement de paix qui est aussi une dynamique de développement du tourisme.
Depuis la prolifération des groupes armés et extrémistes dans la région du Sahel, le nombre de touristes a diminué, mais le festival reste une aubaine financière pour la région. Harry Touché, un touriste italien.
Pour nous, c'est une chose très, très importante pour porter des témoignages en Europe qui est dans le Niger, un peu voyager, ça avec la sécurité, le maximum de sécurité, quand les journaux, les télévisions vont dire qu'il n'y a pas la sécurité. Non, c'est faux.
Nous voudrions que nos touristes, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient de l'extérieur, n'oublie pas qu'il y a ces espaces qui les attendent encore, qui les attendent toujours, parce que ici, c'est des ressources éternelles. Nous, nous sommes de passage, mais nous avons le devoir de les conserver intactes.
Malgré les menaces sécuritaires dans toute la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, les organisateurs du festival restent confiants et veulent promouvoir la culture Touareg au-delà des frontières du Niger.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VO Afrique, à la mise en onde Joselle Morissin, à la console Joe Gill, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Instagram et Twitter bien sûr. Restez avec nous, tout de suite un nouveau bulletin d'informations présenté par Henri Francisque, suivi par À votre avis, votre émission interactive quotidienne avec Nathalie Barge. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.